Philippe, juste avant de parler là, de la Super Ligue de soccer européenne, Supra Ligue de soccer européenne, qui montre déjà des signes de fissure.
Courte vie, tout indique que c'est pour cette ligue-là.
Mon Dieu, hein. Rappelle-nous ce qui est arrivé à Carey Price.
Carey Price, hier, a été victime d'un contact sur un but refusé aux Oilers d'Edmonton. Il a été frappé par chiation des Oilers et il n'est pas revenu au jeu en deuxième période. Et là, aujourd'hui, Dominique Ducharme a confirmé qu'il souffre d'une commotion cérébrale. On parle d'une absence minimale d'une semaine. Patrick, on le sait, hein, les commotions cérébrales, parfois, c'est plus long. Alors, souhaitons-le que ce soit une semaine, mais on verra comment sa situation va évoluer. Donc, un problème de plus pour le Canadien, qui en a plusieurs. Là, à l'entraînement aujourd'hui, on va en parler tantôt avec Martin McGuire d'environ une heure, mais Jonathan Drouin s'est retrouvé sur le quatrième trio. Alors ça, c'est de la part de Ducharme qui a tout fait là, pour lui donner une chance, qui est son ancien entraîneur junior. C'est certainement le signe que ça va vraiment pas bien pour Jonathan Drouin. Et je veux aussi attirer ton attention là, sur un tweet de Marc-Antoine Godin de l'Athlétique qui a assisté aux conférences de presse là, virtuelles aujourd'hui. Et Marc-Antoine écrit « J'ai demandé à Shea Weber comment il évaluait son jeu dernièrement. Réponse de Shea Weber, il n'y a pas lieu d'en parler. C'est un sport d'équipe, non? » Alors, Shea Weber, comme capitaine du Canadien, un gars qui joue vraiment très mal ces temps-ci, aller répondre qu'il n'y a pas lieu de parler de son mauvais jeu parce que c'est un sport d'équipe.
C'est Weber qui dit ça?
Oui, c'est Weber qui dit ça. C'est Weber qui dit ça, qui n'a pas lieu de parler de son mauvais jeu ces temps-ci, de ses difficultés, parce que c'est un sport d'équipe. C'est consternant et puis ça explique, je pense, une partie des ennuis du Canadien. On a beau dire que c'est une équipe qui a des vétérans puis qui a beaucoup de leadership, une réponse comme celle-là, c'est pas une réponse de quelqu'un qui, en tout cas, à tout le moins aujourd'hui, a montré du leadership.
OK. Parle-nous de cette super ligue de soccer européenne, Philippe. Là, c'est les plus grands clubs européens qui ont l'idée d'avoir leur propre ligue. Ça fait pas juste des heureux.
Non, ça fait pas des heureux. Ça a été un coup de tonnerre dimanche quand 12 clubs européens, 6 anglais, 3 espagnols, 3 Italiens, les plus grandes marques de soccer sur la planète là, avec FC Barcelone, Real Madrid, les deux Manchester City et United, bon, et plusieurs autres. On dit, on forme notre ligue, on va toucher le pactole en droit de télé, on est 12 membres fondateurs, on va éventuellement ajouter 3 autres clubs, on va se faire une ligue avec une base de 15 équipes et à chaque année, on invitera 5 nouveaux clubs qui sont suffisamment bons au fond pour lutter contre nous, à faire partie de la ligue sur une base de rotation. Le ressac a été absolument terrible. Même Boris Johnson, le premier ministre britannique, a déclaré, Patrick, qu'il préparait, et là je cite, une bombe législative pour lutter contre ce projet-là. Alors là, il y a eu évidemment les fans partout qui se sont opposés à l'idée parce que c'est une rupture fondamentale avec la structure du soccer telle qu'on la connaît depuis toujours ou à peu près. Et là, il y a des clubs qui ont commencé à hésiter. Et le premier, ça a été le club de Chelsea, là, qui est à Londres. Chelsea, qui est propriétaire, propriété d'un oligarque russe, Roman Abramovich, qui vaut 15 milliards de dollars. Et lui, semble-t-il qu'il commence à avoir des hésitations. Et là, il y a plusieurs médias britanniques qui rapportent que Chelsea, la décision est prise, il se retire de cette ligue-là. Parallèlement à ça, semble-t-il que Manchester City également se retirerait, de même que Barcelone et l'Atlético Madrid. Donc, si c'est le cas, il reste pas mal moins d'équipes. Et à Manchester United, le président de l'équipe, qui est en faveur du projet vient de démissionner, semble-t-il. Alors, c'est clair que le projet est sans doute là, en train de s'effriter. Il y aurait des réunions à peu près au moment où on se parle, ce soir en Angleterre. Donc, quoi, c'est 5 heures de plus. Il est à peu près 20h, 20h30. Alors, j'ai l'impression que cette ligue-là n'aura pas vécu longtemps. Elle n'aura même pas vécu une semaine.
Même pas le temps des tulipes.
Non, c'est ça, exactement. Et le ressac a été trop dur. Maintenant, on verra comment... Est-ce qu'il y aura une base de résistance? Là, parce que le Real Madrid, par exemple, président du club, c'est un gars qui s'appelle Florentino Pérez. Et lui, c'est également... le président de cette nouvelle Super League-là. Et lui, il a déclaré aujourd'hui à l'équipe, au journal Au Quotidien Sportif, l'équipe, il a dit « Écoutez, si on fait rien, là, en 2024, toute notre structure du soccer, on est mort. » Alors, on verra.
Philippe, je veux t'entendre sur la chronique d'Alexandre Pratt ce matin, là, qui posait la question « Pourquoi est-ce que les activités de la Ligue de hockey junior majeur du Québec se poursuivent dans le contexte où les autres ligues juniors au Canada ont cessé leurs activités? »
Oui, la Ligue junior de l'Ontario, il n'y aura eu aucun match cette saison, c'est pas compliqué, puis ils ont tout annulé. La Ligue junior de l'Ouest va continuer sa saison régulière, mais on ne disputera pas de saison de séries éliminatoires, donc c'est sur le point de terminer. Puis la Ligue junior majeure du Québec, elle, malgré les éclosions, veut continuer de disputer ses séries éliminatoires. éliminatoires. Je pense qu'Alexandre posait d'excellentes questions. Pourquoi au juste il faut absolument disputer ces séries éliminatoires-là qui, de toute façon, arrivent au terme d'une saison qui a été un peu quinca. Il y a encore eu de nombreuses éclosions dans au moins trois équipes là, récemment. Et c'est un petit peu difficile à comprendre, surtout que c'est la seule ligue là, à l'heure actuelle dans les ligues juniors qui se bat autant pour continuer sa saison. On pourrait dire que c'est méritoire, ils veulent mener leur saison, mais dans le contexte actuel, je ne suis pas convaincu que c'est la bonne décision.
Très bien, petite pause et au retour, on va parler de musique. Mais juste avant d'aller à la pause, je veux vous relater là, ce qu'il y a dans la messagerie parce qu'il y a quelqu'un qui me taquine en me disant « J'espère que le vaccin AstraZeneca va être meilleur pour toi que le vaccin de la grippe. L'automne dernier, j'ai manqué quelques jours de travail à cause des effets secondaires. » Ben écoutez, ça arrive quand on se fait vacciner, il y a ce petit risque-là. Moi, j'ai développé des fièvres. J'étais pas bien. Puis tant pis. Si c'est ça le prix à payer pour être vacciné pour la COVID, c'est un prix que je suis prêt à payer personnellement. Mais il y a quelqu'un d'autre qui m'écrit pour me dire, pour rebondir sur ce que Catherine a dit. Catherine a parlé de ses craintes d'être vacciné. Mm-hmm. Et là, il y a quelqu'un qui dit, écoutez, à heure de grande écoute comme ça, c'est peut-être pas une bonne idée de parler de ça. Écoutez, je vais d'abord, merci de m'avoir écrit, je vais vous répondre à ça. Si Catherine m'avait dit hors d'onde, moi je suis anti-vaccin, puis je veux pas, je compte les vaccins pour plein de raisons, j'aurais dit Catherine, tu as tout à fait le droit, il n'y a pas de problème, mais si tu en parles, je vais te couper le micro. Ça, c'est une chose, OK? Elle peut aller en parler sur sa page Facebook. Moi, je donne pas de tribune à des gens qui sont anti-vaccins, je trouve que c'est anti-scientifique. Ceci étant dit, anti-vaccin en général, OK? Il peut y avoir des bonnes raisons pour certaines personnes d'avoir des doutes. Parfait, parlons-en,
si
pas de problème.
Ou si j'étais complotiste.
Ou si tu étais complotiste. Oui. Ceci étant dit, ce que Catherine a exprimé, c'est une préoccupation qui est répandue dans la population. Je le vois avec les messages que vous m'envoyez. Il y a des réticences face au AstraZeneca. Parfait. Parlons-en. Elle a dit qu'elle allait y aller. Elle pourrait aussi décider que tu passes ton tour pour celui-là, puis tu iras pour le
puis
prochain.
Je vais attendre plus tard, mais je disais que pour moi, je sentais le devoir d'y aller.
Exactement. Mais ceci étant dit, je pense qu'il faut en parler parce que les risques sont très, très minime. On a entendu docteur Dessert tantôt, mais il ne faut pas faire semblant non plus que ça n'existe pas.
Mais tu sais, je vais faire une nuance, là, ça peut faire un peu rire les gens. Là. Moi, quand je suis allée me faire opérer, j'avais peur de jamais me réveiller. Fait que tu sais, j'ai tout le temps peur d'une affaire comme celle-là. Fait que j'imagine souvent le pire. Ça, c'est ma tête. Alors, vous avez votre tête, j'ai la mienne. J'ai partagé mes craintes parce que je sais que c'est... Il y a beaucoup de gens dans la population qui en ont. J'ai des amis qui en ont. Fait que c'était la raison pour laquelle j'en ai parlé.
Tu l'as bien fait et tu l'as bien fait.